Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous célébrons aujourd'hui, en même temps que le 19e dimanche après la Pentecôte, le dimanche des missions, parce que notre mère, l'Église, nous le demande. Je n'ai pas voulu vous imposer cette messe en violet qui peut être célébrée à l'intention des missions, à la place de cette messe en vert, parce que le violet vient bien assez vite dans l'année et que nous n'aurions pas eu l'occasion d'entendre ce passage de l'Évangile de saint Matthieu qui me plaît tant et sur lequel nous avons tant à dire. C'est le dimanche des missions donc. Mission dans l'imaginaire populaire, c'est ce terme qui est employé pour désigner l'activité de quelques barbus en Afrique, vêtus d'un chapeau de brousse ou vêtus du casque colonial, la croix pectorale au ventre, et qui sont d'Afrique ensuite partis dans d'autres contrées, toujours plus lointaines. Notre jeunesse, je pense, notre enfance a été bercée pour une part par le récit extraordinaire de tous nos devanciers dans la foi qui ont eu le courage d'aller annoncer Jésus-Christ de par le monde. Alors aujourd'hui, évidemment, les missions ont pris un aspect un peu différent, puisque cette image populaire n'est plus exactement d'actualité, mais enfin, le travail des missionnaires continue, et on entend régulièrement que certains d'entre eux passent un sale quart d'heure entre les mains de tel ou tel qui ne veulent pas qu'on annonce Jésus-Christ. Vous voyez très bien de quoi je parle. Donc nous prions aujourd'hui spécialement pour nos frères missionnaires qui ont le culot d'aller annoncer l'Évangile. Mais depuis les années 50, le magistère a reconnu que n'était pas seulement à considérer comme terre de mission le Levant, l'Afrique ou l'Amérique latine, mais bien encore les vieux pays de chrétienté. D'abord, le milieu ouvrier, que l'on estimait insuffisamment évangélisé et sur lequel les papes ont fait porter l'effort, des missionnaires en France, avec succès ou avec quelques problèmes. Mais plus largement qu'à l'égard de ce milieu ouvrier, c'est bien à l'égard de n'importe lesquels de nos contemporains qu'il faut faire porter l'effort. Alors, ce dimanche des missions, s'il est premièrement dédié à nos frères missionnaires au sens strict, qui sont aux quatre coins du monde, dans la brousse, en Patagonie ou que sais-je encore, il est également en quelque sorte destiné à chacun d'entre nous. Il faut toujours reprendre ce travail de mission, ne jamais se laisser désespérer par les échecs, parce que très souvent ces échecs ne sont qu'apparents. Songez à la figure du père de Foucault, auquel certains reprochent d'avoir échoué. Le père de Foucault a une fécondité selon le cœur de Jésus, qu'il ne nous appartient pas de déterminer. Peut-être est-ce à lui que nous devons certains beaux succès, peut-être pas dans la contrée où il se trouvait, mais de par le monde, parce que le père de Foucault était cette petite graine concassée qui est mort martyr, la chose est désormais avérée, et qui a donné la fécondité que Dieu voulait pour lui. Il faut, je crois, pour sortir de l'impasse d'un certain nombre de projets missionnaires qui se résument très souvent à des projets sociaux, à des projets d'aide humanitaire, tout cela étant très bon par ailleurs, mais insuffisant lorsqu'on est missionnaire, si nous voulons sortir de cette ornière de notre propre échec en la matière, parce que nous sommes paresseux, il faut bien le reconnaître, insuffisamment enflammés du Christ pour être vraiment missionnaires, si nous voulons donc sortir de cette ornière, il nous faut revenir à ce qu'est la mission. Figurez-vous que la mission que le Seigneur Jésus donne à chacun de ses disciples, en ces termes que vous connaissez par cœur, mais il est bon de se l'entendre redire, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi, je vous ai choisi, je vous ai établi pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Le Seigneur Jésus adresse cet appel à chacun d'entre nous, mais si nous voulons vraiment prendre au sérieux cet appel, comprendre toute la profondeur de la mission qui nous est donnée, il faut revenir à la racine de ce qu'est la mission de tout catholique. Cette racine, elle est tout simplement dans la Trinité Sainte. Il y a, de toute éternité, une procession entre les personnes. Le Père engendre le Fils, et le Fils se rétrocède au Père dans le Saint-Esprit. Il y a ensuite ces missions divines, c'est-à-dire cette incarnation du Fils à l'extérieur de la Trinité, et cet envoi du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Voilà précisément cet envoi du Fils dans l'incarnation, et cet envoi du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, voilà, mes bien chers frères, la racine de notre propre mission. Nous devons, si j'ose dire, surfer sur la vague de l'envoi du Fils et du Saint-Esprit, rien moins que cela. Alors lorsque j'en entends certains désespérés devant la situation actuelle, ou lorsque je me regarde dans la glace avec un visage un peu déconfit parce que j'ai échoué sur tel ou tel plan, je me dis que tout de même, le trésor que nous avons en nous est tel que nous n'avons rien à craindre. C'est le Fils et le Saint-Esprit qui sont les garants de la tâche missionnaire de chaque chrétien. Voyez comme cela est beau, et voyez comme nous sommes loin de tous les bricolages que nous impose tel ou tel convict, ou tel ou tel soviet dans quelques paroisses françaises, qui voudraient que nous bricolions, à la force de nos petits poignets, avec nos petits doigts, des projets qui ramèneraient tout le monde à l'église, à grand renfort de concerts électroniques et que sais-je encore. Non, la vraie solution, elle réside dans l'union à la Trinité Sainte. Plus nous serons vivants du Christ, plus nous laisserons ouvert large la porte au Saint-Esprit, plus nécessairement notre puissance de frappe, notre puissance évangélisatrice sera évidente. L'évangile d'aujourd'hui nous donne quand même quelques indications un peu plus concrètes que ce que je vous dis là. Ça c'était, si l'on veut, le décor. Voyons maintenant un peu les personnages, comment tout cela se passe. Le bon missionnaire, il trouve sa solution, son plan de bataille dans l'évangile d'aujourd'hui. Il faut d'abord ne pas s'attendre à être accepté d'emblée. Ça, c'est quelque chose qui nous coûte, il faut bien le reconnaître. Et même si, de temps à autre, nous nous disons que si nous sommes rejetés, c'est bon signe, parce qu'alors, c'est que nous faisons un travail vraiment efficace. Entre parenthèses, c'est pas toujours vrai. Il arrive que nous nous fassions jeter parce que, objectivement, nous sommes mauvais. Il ne faut pas toujours se dire que, parce qu'on est rejeté, on est bon. Voilà, ça, je ferme la parenthèse. Il faut donc s'attendre au même rejet que celui qu'a enduré Jésus-Christ. Et oui, c'est normal. Tel est le maître, tels sont les disciples. Et que se passe-t-il dans cet évangile? C'est quand même assez clair. Eh bien, les envoyés du grand roi se font zigouiller. Vous voyez que parfois, ou au moins éconduire. Il en coûte parfois de se faire éconduire. Et croyons bien que ce n'est pas parce que Jésus se fait éconduire lorsque nous cherchons à le prêcher, mais c'est parce que nous nous faisons éconduire et que notre petit amour-propre humain en est blessé. De cela donc, il faut essayer de guérir. La deuxième chose, c'est que nous avons à présenter la vie chrétienne telle qu'elle est vraiment, c'est-à-dire telle que Dieu la veut pour nous. La vie chrétienne n'est pas d'abord, j'y insiste suffisamment et je pense que je parle à des personnes convaincues, parce que nous sommes à l'école du bon pasteur et notamment de l'abbé de Tanoirne dans cette maison, alors nous en sommes convaincus, il ne s'agit pas d'abord de prêcher l'obéissance à un code de préceptes, nous ne sommes pas musulmans, nous ne sommes pas juifs, il ne s'agit pas non plus, premièrement, de participer au sacrement, encore que ce soit fondamental, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il ne s'agit pas premièrement de se soumettre au pape et d'adhérer aux articles de foi, mais premièrement la vie chrétienne, c'est-à-dire au fond, plus fondamentalement que tous ces éléments capitaux, les sacrements, la doctrine et la soumission au pape étant les éléments qui nous rattachent à notre mère l'Église, donc c'est important, mais plus fondamentalement, qu'est-ce qu'il faut prêcher à nos contemporains? Leur dire simplement qu'ils sont invités à quoi? Invités à entrer dans une salle de noces. Ils sont invités à prendre part à des noces. Vous me direz que c'est quand même un peu candide, un peu naïf, et que sans doute, on vous raccompagnera poliment à la porte en vous disant que, en fait de noces, le monde sait mieux s'éclater, comme on dit, que l'Église. Mais cette noce a quelque chose de particulier. Voyez, et comme chaque homme est appelé à cette noce, il y a en lui une sorte de récepteur qui fait que, mine de rien, s'il fait semblant de s'en désintéresser, en fait, ça va lui parler. D'abord, cette noce est tout à fait improbable. Quand on voit que, dans l'évangile d'aujourd'hui, le grand roi invite tout homme. Avez-vous déjà assisté, ou plutôt entendu parler, d'un mariage people où le tout venant était invité? Voilà que dans ce mariage, c'est le cas. On ne se contente pas d'un gotha restreint, mais on en vient, c'est la parole même de l'Écriture, à inviter les bons et les mauvais. Alors, quand quelqu'un vous prétextera qu'il est pécheur, quand quelqu'un vous dira qu'il a fait des choses trop lourdes, trop graves, pour pouvoir répondre à cet appel qu'il trouve très beau, vous pourrez lui répondre par cette parabole en lui disant que, tu vois mon ami, le grand roi ne fait pas exception des personnes, il accepte de prendre le tout venant. Parce que bien souvent, le gotha, celui qui a reçu tout en héritage, n'est pas à la hauteur. Donc, mon ami, tu peux entrer. La deuxième particularité de ce mariage, et donc de ce à quoi tout être humain est appelé, c'est que, en réalité, il s'agit du sien. Il n'est pas fait allusion ici à la personne du marié et de la mariée, pas plus qu'il n'est fait allusion aux noces de Cana, premier miracle du Seigneur Jésus, à la personne du marié et de la mariée. Peu importe. Ce qui importe dans cette parabole, c'est de comprendre que chacun est appelé en réalité à devenir l'épouse. L'époux étant, vous le savez, avec un grand E, le Seigneur Jésus lui-même. Parce que saint Paul nous en a averti en nous disant que ce mystère était grand, du Christ époux de l'Église, et nous devons nous inscrire dans cette dynamique et devenir la petite épouse de Jésus-Christ. Que nous soyons hommes ou femmes par ailleurs, peu importe, notre âme, elle, est, si j'ose dire, asexuée. Et elle est faite pour une union sponsale, une union matrimoniale avec le Seigneur Jésus. La troisième chose, donc il s'agira de dire à nos contemporains, vous n'êtes pas fait pour être des potiches. Non seulement vous pouvez entrer dans la salle des noces, mais en plus, c'est vous qui allez vous marier. C'est autrement plus excitant que de devoir rester là passif. La troisième chose qui me semble intéressante, c'est qu'il n'y ait pas besoin dans ce mariage en question de se procurer soi-même une robe. Vous savez, notamment celles d'entre vous qui ont eu à faire le choix d'une robe de mariée ou à choisir pour leur fille ou leur sœur ou que sais-je, une robe de mariée, vous savez combien payer un couturier, courir les grands magasins est un peu compliqué. Eh bien, qu'on se rassure, dans l'Église et dans ce que veut le Seigneur Jésus, dans ce mariage qui est prévu pour nous, il n'a rien qu'à recevoir la robe que nous donne Dieu. Revêtez-vous du Seigneur Jésus, ou plutôt laissez-vous revêtir du Seigneur. C'est ce que nous dit saint Paul en plusieurs occurrences de ses épîtres. Laissez-vous revêtir. Vous voyez donc une personne qui vous dirait « je n'ai rien à apporter, je ne sais pas très bien », vous lui dites « Dieu va te revêtir ». Évidemment, il te revêt par les sacrements, premièrement par le baptême. La robe nuptiale, nous l'avons, depuis pour la plupart d'entre nous, nous l'avons revêtue dès notre plus jeune âge. On n'attend pas pour se marier dans l'Église, vous voyez. Et puis, il est encore un dernier détail sur lequel je voudrais insister, c'est que celui qui se fait honnir de la salle des noces, celui qui se fait jeter de la salle des noces définitivement à la fin, c'est celui qui reste muet. C'est un détail que vous n'aurez sans doute pas relevé. Je cite le petit passage, la petite péricope. Le roi demande à celui qui n'est pas revêtu de ce vêtement de noces, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» L'autre resta muet. Et parmi les commentaires qu'on trouve de cette toute petite incise, l'autre resta muet, on nous dit que le tort de cette personne, ce n'est pas tant de ne pas avoir eu la robe immaculée, pour cela il aurait suffi d'aller se jeter entre les bras du Père et demander pardon de ses fautes, ce qu'il aurait accordé instantanément. Ce que lui reproche Dieu en réalité, enfin le roi dans cette parabole, c'est de rester muet. Autrement dit, ce que reproche Dieu à l'être humain, c'est de ne pas entrer en dialogue avec lui. C'est soit de rester dans sa petite tour d'ivoire de certitude bien assise, qu'il a fabriquée de son propre cru, soit, étant revêtu du vêtement de noces, de ne pas entrer en dialogue avec Dieu. C'est la seule chose que Dieu veut pour nous en gage de notre amour. Que nous soyons ou pas pécheurs, Dieu veut que nous discutions avec lui. Considérez ces grandes figures de l'Ancienne Alliance, par exemple Abraham, et je m'arrêterai sur Abraham seulement, Abraham qui négocie avec Dieu pour obtenir le salut des villes pécheresses en demandant que Dieu réduise ses exigences, et s'il y avait 100 justes, et s'il y avait 50 justes, et s'il y avait 10 justes, finalement Dieu rase la ville parce qu'il n'y avait même pas un juste. Mais il accepte de faire baisser les exigences. Pourquoi ? Parce qu'Abraham est entré en dialogue avec lui. Deuxième grande figure à laquelle je veux faire allusion ce matin, la Vierge Marie. La Vierge Marie qui pourtant discute si peu, ou du moins dont on relate si peu de paroles dans le Nouveau Testament, que fait-elle ? Dès qu'elle apparaît dans l'Écriture, elle entre en dialogue avec son Dieu. Comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge et je ne connais pas d'homme ? Vous voyez qu'il faut garder par le dialogue le contact avec Dieu. C'est la seule chose que Dieu demande. Que nous lui parlions pour lui dire que nous l'aimons, que nous lui parlions pour lui dire que nous demandons pardon. Et alors Dieu immédiatement s'exécutera. Si cet homme-là n'était pas resté quoi ? Mais s'il avait accepté de dialoguer avec le Maître, s'il avait expliqué pourquoi il n'était pas revêtu du vêtement des noces, il avait été invité au dernier moment. Il aurait pu dire ça et Dieu l'aurait immédiatement entendu. Si nous ne dialoguons pas avec Dieu, si même pratiquons pratiquant les sacrements, essayant d'être pratiquant plus ou moins, nous ne parlons pas dans le fond de notre cœur avec Dieu, si tout cela n'est que sociologique ou si tout cela n'est qu'extérieur, ne rêvons pas, nous n'aurons pas de salut. Quant à nos contemporains, il leur suffit de parler à Dieu dans leur cœur. Songez combien cela est libérateur. Je sais que certains d'entre vous ont déjà eu ce genre de discussion avec des non-croyants ou disons des personnes qui sont aux marges. Dites-leur, si tu ne veux pas venir à la messe dans un premier temps, si tu ne veux pas d'emblée te jeter dans le bouillon de la salle des noces, eh bien, dans le fond de ton cœur, demande à Dieu qu'il te parle, dis-lui quelque chose et nécessairement Dieu te répondra. Voyez, je crois que cet évangile, et j'aurais pu encore y consacrer 3 ou 4 heures, mais je vous fais grâce de cela, cet évangile est extrêmement riche pour nous faire comprendre comment annoncer l'évangile, comment susciter chez notre prochain une confiance, parce qu'en réalité, les choses ne sont pas si compliquées que ça. Lorsque ce passage de l'évangile termine sur cette phrase redoutable, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. En réalité, le peu d'élus n'est pas le signe que Dieu est sectaire et qu'il n'aurait choisi qu'un petit aréopage, mais simplement le signe que très peu répondent à l'appel de Dieu. Tout est de notre faute, tout est de notre faute à nous les missionnaires qui ne sommes pas assez missionnaires, tout est de la faute de nos contemporains si, leur prêchant la parole de Dieu, leur annonçant cela, ils ne se jettent pas immédiatement dans un dialogue, si ténu soit-il, avec le roi du festin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.